Nous sommes dans le livre de Job. Un grand livre que j'aime beaucoup, que le thème est la souffrance. Un thème que je suppose, si je devais poser une question à tout le monde, qui n'a jamais vécu de souffrance. Je pense que personne n'aurait levé la main. Est-ce que je me trompe? Personne n'a jamais vécu de la souffrance. C'est un thème qui atteint tout le monde. On a vu dans Job 1 que Job avait tout perdu. Ses biens, ses enfants, sa richesse, les bœufs, ses employés. Tout ça en une seule journée. Et puis dans Job 2, on a vu, on ne sait pas combien de temps qu'il y a eu, soit une journée, soit un temps. Job a perdu aussi sa santé. Et pourtant, il n'y avait pas de péché particulier que le texte nous dit. Et même que Job ignore tout ce qui se passe au ciel. Il ignore la discussion qu'il y a avec Satan et Dieu. Mais dans tout ça, le texte nous dit dans Job 2:10, Job ne pécha point. Et contrairement à son épouse qui lui donne un conseil, maudit Dieu est mort et meurt, Job ne maudit pas Dieu. À mon avis, Job vit une souffrance incompréhensible. J'ai jamais vécu une souffrance proche de cela. Et gloire à Dieu. Je ne veux pas. Mais Job reste pour nous un modèle. Un modèle de souffrance en ayant la confiance en Dieu. Malgré que plus tard, on va voir plus tard ensemble, au chapitre 38 et 41, Job va se faire reprendre par Dieu. Mais au chapitre 42, verset 7, Dieu proclame très clairement aux amis de Job, « Vous n'avez pas parlé en moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Oh! Donc on a ça en toile de fond pour notre texte qu'on va voir aujourd'hui. On ne veut pas oublier cela. Après 7 jours que Job pleure avec ses amis, Job va briser le silence. Il va finalement ouvrir la bouche. Et qu'est-ce qui sort de sa bouche n'est pas un blasphème contre Dieu, mais une lamentation profonde, une des rares, les plus profondes qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu. Job va crier sa douleur avec une sincérité et une lourdeur, mais sans avoir abandonné Dieu. Sans murmurer contre Dieu. Et ça, il va le faire en 3 mouvements qu'on va voir ensemble. Il va se plaindre d'être né, il va se plaindre qu'il n'est pas mort-né, et il va se plaindre que la mort le fuit. Donc, lisons ensemble les 10 premiers versets pour voir le premier mouvement dans Job 3. Verset 1 à 10. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Job prie ou répond à la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour, qu'il soit donc ténèbres, que Dieu n'en ait pas souci de là-haut, et que la lumière ne brille plus sur lui, que les ténèbres et l'ombre de la mort le réclament, que des nuées demeurent au-dessus de lui, et que de sombres événements l'épouvantent. Cette nuit, que l'obscurité s'en empare, qu'elle ne se réjouisse point parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le compte des mois. Oui, que cette nuit soit stérile, qu'il n'y a pas en elle de cri de joie, qu'elle soit exécrée par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent réveiller le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle espère la lumière sans qu'elle vienne, et qu'elle ne voit pas les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le ventre qui m'a conçu, ni caché la peine à mes regards. » C'est lourd, non? C'est profond. Cette plainte que Job fait, cette lamentation que Job fait devant ses amis, ressent vraiment quelque chose de réel et de profond, d'une vraie souffrance qui perdure. Et le narrateur, le texte dit, Job ouvre la bouche et maudit. Job répond et dit. Il répond à sa situation. Il répond à sa souffrance. C'est une emphase poétique. Donc beaucoup de monde vont dire que c'est un chant ou une plainte. C'est une emphase poétique. Quand on ne trouve pas des mots rationnels pour expliquer qu'est-ce qu'on vit, on met des images. Et c'est ça qu'il va utiliser. Job souhaite la destruction de son jour de naissance. Voici qu'est-ce qu'il souhaite. Que Dieu l'efface, que Dieu l'oublie cette journée-là. Je ne sais pas si vous ressentez la douleur qui engloutit toutes les bonnes années qu'il y a eu. Cette douleur enlève les bons souvenirs. Bien que ce dernier maudisse le jour qu'il est né, il fait une chose qu'il ne fait pas. Il ne maudit pas Dieu. Job, dans sa souffrance, veut effacer cette journée de la création de Dieu. Plus de joie, plus de lumière, plus d'existence. Mais surtout, plus de supplice extrême. Il revient à dire qu'il souhaite que ce jour n'existe pas. Donc lui, il ne va pas exister. Et il n'y aura pas besoin, il n'y aura pas à avoir à vivre cette souffrance profonde. À partir du verset 8, ça change un petit peu. Son image change un tout petit peu. Il vient à faire appel aux imprécateurs, à faire appel aux enchanteurs, celui qui peut contrôler le Léviathan. Le gros animal, comme un gros dinosaure, qui peut le contrôler. Dieu va répondre à ça plus tard. Mais comme si eux, ils peuvent enlever une journée que Dieu a créée. C'est intense, les propos de Job. Mais il donne la raison du pourquoi. Verset 10. Je relis pour vous. « Car elle n'a pas fermé le ventre qui me conçut, ni caché la peine à mes regards. » Elle n'a pas fermé ma venue sur terre. Elle n'a pas enlevé... Elle n'a pas permis que je ne souffre pas cette souffrance qui est lourde, qui est insupportable à mes yeux. Quand on vit une souffrance lourde, c'est une chose. Mais quand la souffrance n'a pas de réponse, n'a pas de pourquoi, pourquoi cette souffrance-là, elle devient lourde, elle devient encore plus lourde, elle nous écrase. Un fort ressenti. On la vit. Et elle peut nous faire dire des mots durs à entendre. Notre souffrance étant devant nos yeux continue à faire de plus en plus mal. Comme si quelqu'un vivait un cancer terminal et perd tout. Qu'est-ce qu'il a? Il souffre physiquement, il dépérit. Il voit son corps dépérir et qui dit « Vaut mieux pour moi de ne pas avoir été en vie. » C'est un peu ça que Job vit. C'est dans ce contexte-là, après avoir maudit le jour de sa naissance, que Job s'en vient à se poser plein de questions. Je me rappelle un temps que c'était difficile. Et je me rappelle... Un des anciens était venu me voir. Puis j'avais juste des questions. Pourquoi? On veut comprendre, hein, pour donner un sens à notre douleur. Mais Job, à partir du verset 11, c'est ce qu'il va faire. Il va demander pourquoi? Il se demande pourquoi. Mais s'il sait pourquoi, c'est pourquoi qu'il n'est pas mort-né. Comme Dieu n'a pas enlevé cette journée-là, pourquoi qu'il n'est pas mort-né? Donc lisons ensemble. Versets 11 à 19. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le ventre, dès les entrailles de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des seins pour m'allaiter? Mais maintenant, je serai couché, je serai tranquille. Je dormirai, alors je pourrai me reposer avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des mausolées, avec les princes qui ont de l'or et qui remplissent d'argent leur maison. Ou bien je n'existerai pas, comme un avorton caché, comme des petits-enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là, les méchants chassent leur agitation. Et là, se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les prisonniers sont tous dans la tranquillité et ils n'attendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là et l'esclave est affranchi de son seigneur. Ça va de pire en pire, non? Et les versets 11 et 12, il dit clairement, il regrette d'être né. Il dit ça à ses amis. Je suppose que c'est pour les sensibiliser, pour qu'ils puissent comprendre sa douleur. Il s'exprime profondément, ça ne va pas bien. Il espère, même au verset 13, qu'il y a un avantage d'être mort-né. Parce qu'un bébé né, il est en repos, un peu comme les riches dans leur maison. Quand un bébé qui naît et qui est mort, mais il est à l'abri de la méchanceté, les méchants, le mal ne peut pas atteindre dans la mort. Dans la mort, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de lieux, il n'y a personne pour dominer sur une personne. Donc, il y voit un avantage. Et c'est pour ça qu'il donne l'exemple des rois et des princes et des conseillers qui se bâtissent des tombes, des mausolées, ou qui se bâtissent des maisons. Un genre de garantie, un genre d'être en paix. Et Job est en train de dire, par tous ces exemples-là, il veut être en paix, sans tracas. Il décrit la mort comme la fin des souffrances terrestres. La fin des oppressions. Dans la tombe, il y a le repos. Le repos des souffrances ici-bas. Job a raison. Tant que nous vivons ici-bas, nous allons souffrir. Dans cette terre imparfaite, corrompue par le péché, nous allons souffrir. Et il y avait hâte de partir. Il y avait hâte et de ne pas être là. Ça ressemble un peu à ce que Paul dit aux Philippiens, chapitre 1, versets 23 et 24. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. C'est ce que de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, que dit Paul. Non, comme a dit Myria tantôt, le chrétien, celui qui met sa vie, sa toute confiance en Jésus. La mort est la fin de ses souffrances et non le début de ses souffrances. Mais c'est l'entrée avec une relation permanente, éternelle avec Christ. Mais pour ceux qui reposent leur confiance en la mort, sacrifice de Jésus à la croix et en sa résurrection, et qui le suivent comme Seigneur et Sauveur pour eux. Et la mort, elle devient un repos. Ils trouvent en la mort un repos de leur âme pendant que le monde vit des tristesses et des tribulations. Job idéalise la mort. Il ne voit pas la mort comme un don, par contre. La mort lui serait mieux. Parce que la souffrance lui a rendu la vie méconnaissable. Quand la lourde souffrance devient continuelle et qu'on continue à voir ça jour après jour devant nous, certains peuvent arriver à perdre le goût de vivre. Ce n'est pas automatiquement un rejet de Dieu. C'est un cri de douleur. C'est un cri de tourment. Et c'est le signal qu'il faut chercher de l'aide dans l'église locale, de l'aide pastorale, de l'aide médicale, d'un frère ou d'une sœur pour prier avec ceux qui pleurent et pour les amener vers Christ. Son expression, l'expression qu'on peut avoir de douleur de Job n'arrive pas à son terme. Il y a un troisième, paragraphe à Job dans son histoire. Et comme dans la plupart des textes poétiques, le summum est vers la fin. Après s'être plaint d'être né, après se plaindre d'être pas mort-né, et là, il va se plaindre que la mort le fuit. Job 3, 20 à 26. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui peine et la vie à ceux qui ont de l'amertume dans l'âme, qui attendent la mort sans qu'elle vienne et qui la convoitent plus que des trésors, qui se réjouiraient, transportés d'allégresse et de joie, s'ils trouvaient une tombe à l'homme dont la route est cachée, et que Dieu cerne de toutes parts. Car au lieu du pain, surviennent mes soupirs, et mes cris se répandent comme de l'eau. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos. C'est l'agitation qui survient. Pour vivre, Job, c'était plus lourd que mourir. Il redit un peu comme le psaume 42, verset 3. Sa nourriture et ses larmes. Il n'y a pas d'issue devant lui. Il a tout perdu. Enfants, serviteurs, famille, richesse, moutons et même sa santé. Cet homme que Dieu avait déclaré intègre, cet homme qui faisait des sacrifices au cas que ses enfants péchaient, cet homme qui craignait Dieu comme on ne voit très peu. Et ça lui arrive cette terrible épreuve. Aucune consolation, aucun repos. Son malheur est continuellement devant lui. Sa plainte est un cri de douleur, est une lamentation lourde, mais sans avoir abandonné Dieu et sans murmure contre Dieu. Parce que Job ne murmure pas contre Dieu. Il ne parle pas contre Dieu, même il parle de Dieu au verset 23 comme souverain. C'est lui qui m'enferme de toutes parts. Il ne renonce pas à sa foi. Il maudit le jour, mais il ne maudit pas Dieu. Il pose des questions, mais il n'accuse pas. Il pose 4 fois. Pourquoi? 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 C'est des interrogations honnêtes. Pas un rejet de Dieu. Job se distingue. Il ne fait pas de murmures. Il crie sans avoir abandonné Dieu, sans avoir rejeté Dieu. Et c'est un peu cette même prière que Jérémie, je ne sais pas si Jérémie s'est inspiré, mais ça ressemble beaucoup dans Jérémie 20, 14 à 18. Ça vaut le coup de lire. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui portera cette nouvelle à mon père, il t'est né un fils, et qu'il le comblera de joie, et qu'il le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on pas fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle pas servi de tombeau? Et que n'a-t-elle resté éternellement enceinte? Pourquoi je suis sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur pour consumer mes jours dans la honte. Ça, c'est Jérémie qui dit ça. Cette réalité que Jérémie a vécue, que Job a vécue, n'est pas exclusive à eux. Il y a certains d'entre nous qui vivent ça. Ça peut nous arriver. Il y a une histoire que j'ai lue, que j'aime. Monsieur Spafford, un Américain, un avocat, qui a laissé sa femme, ses enfants, ses quatre enfants, aller en Europe. Et qui a dit, allez-y, pendant que lui reste à Chicago pour faire ses affaires, pour finir, y aller le rejoindre après. Le 2 novembre 1978, le navire Ville du Havre entre en collision avec un autre navire. Et en 12 secondes, le navire coule. Anna, son épouse, voit ses quatre filles se noyer. Et elle survit à peine en s'accrochant à une planche. Arrivée au pied de Galles, elle envoie un télégramme à son mari pour lui informer, moi seule, pour dire qu'elle seule est restée en vie. Je ne sais pas comment il a appris ça. Je ne peux pas imaginer le ressenti. Avec un cœur lourd, l'avocat prend le prochain navire et embarque pour aller rejoindre son épouse en Angleterre. Et le capitaine, sur la route, il vient dire à M. Spafford, hey, c'est ici que est arrivé l'accident. Une fois, et dès qu'il a vu par la suite, dans sa cabine, il a écrit ces mots que plusieurs évangéliques connaissent. When sorrow like sea billow rolls, it is well with my soul. Even so, it is well with my soul. En français, quand les chagrins roulent comme les vagues de la mer, tout va bien. Tout va bien pour mon âme. Malgré tout, tout va bien pour mon âme. Ça ressemble au chant « Quel repos céleste » que plusieurs d'autres connaissent. Imaginez cet homme, loin de sa famille, loin de ceux qu'il aime, et apprend le décès de ses quatre filles. Je ne sais pas comment j'aurais réagi, moi. Si cet homme perdrait en plus tous ses biens, son épouse, il pourrait dire, Seigneur, encore bon la vie. Tout le bonheur que tu m'as donné s'est transformé en malheur. Ça ressemble à Élie dans un roi 19 qui essaie d'amener Israël du Nord à la repentance. Qui fait même tomber le feu du ciel. Il est accablé et suite à une petite menace de mort, une petite lettre, il a peur, puis il demande la vie, il demande la mort à Dieu. Ou bien Paul et ses compagnons qui racontent dans 2 Corinthiens 1, 8 et 9, et qui dit, nous sommes accablés, on ne voulait pas conserver la vie. Tellement qu'ils étaient accablés. Ça peut nous arriver. Ce n'est pas uniquement à Job. Cette lamentation de Job 3 est très réelle. Il peut être difficile d'entendre cela, surtout si on n'accepte pas de faire face à la réalité. Mais j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a certains d'entre nous qui vivent cela. Job 3, c'est la partie lourde. Mais imaginez-vous d'avoir le livre Job 3, mais sans les deux premiers chapitres. Quel serait notre raisonnement? Moi, je pense que j'aurais réagi un peu comme les disciples de Jésus devant l'homme qui est aveugle de naissance, dans Jean 9. Jean 9 dit comme ça, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient la question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Cette question-là, je n'ai jamais compris. Comment il peut pécher s'il n'est pas né? Mais Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » La souffrance de Job ne s'explique pas par une faute particulière. Le chapitre 3 de Job nous démontre une plainte honnête. Cette plainte, elle fait honneur à Dieu, car elle met en évidence sa souveraineté. Dieu est souverain sur toute chose. Job est un exemple, un type du Messie, de Jésus. Mais il n'est pas le Messie attendu. Ça, je vais être clair. Job souffre comme juste et intègre, Dieu l'a déclaré. Et il est aussi imparfait. Jésus, il est juste, intègre et parfait. Job souffre comme sans comprendre les raisons de ce qui lui arrive. Mais Jésus, lui, entre volontairement dans la souffrance afin d'accomplir la rédemption de son peuple pour une obéissance parfaite, pour notre rédemption. Job ne tombe pas dans le murmure ni la malédiction contre Dieu. Job est un exemple pour nous quand les choses sont vraiment graves et vraiment lourdes. Et l'histoire de Job nous montrera aussi que la souffrance peut pousser à avoir des paroles qui dépassent notre entendement. Et il va se faire reprendre plus tard par Dieu. Mais aujourd'hui, dans Job 3, il nous enseigne un cri de douleur brut. Il maudit le jour de sa naissance. Il souhaite n'avoir jamais existé. Il se demande pourquoi Dieu donne la lumière à celui qui souffre. La conclusion de cette lamentation est de vivre honnêtement dans la souffrance avec la famille de Christ. Et surtout avec Jésus, qui peut sympathiser avec nous et qui peut nous secourir. C'est ce que Hébreux 2 précise, verset 18. Et Hébreux 4 va ramener ça encore. On a un sauveur qui peut compatisser avec nous. La lamentation n'est pas un encouragement au désespoir. C'est un encouragement à avoir un cri de souffrance, à crier à l'aide, au secours. Je souffre, c'est dur. Job 3 nous enseigne que la souffrance profonde fait partie de l'expérience humaine. Une plainte authentique, une prière authentique à Dieu. Et cette prière authentique, c'est un encouragement de nous à en faire quand ça ne va pas bien. Parce qu'elle peut traverser des zones extrêmement sombres, même à vouloir ne jamais exister. Et rester une prière. Nous sommes encouragés à vivre avec cette sincérité. Bon, si ça ne va pas bien, si quelqu'un vous dit comment ça va, on répond quoi? Ça ne va pas bien? Pas obligé de dire toute l'histoire. On peut juste dire ça ne va pas bien. Crions honnêtement, tout en s'arrêtant sur la souveraineté de Dieu, en reconnaissant qu'il est celui qui détient la réponse. Renouvelons notre confiance auprès de Dieu, même dans la souffrance, comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et notre Seigneur Jésus qui est notre exemple. car la lamentation reconnaît encore Dieu comme souverain, tandis que le murmure s'éloigne de Dieu. Crions à l'Éternel. Amen.